I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler évidemment de Resident Evil 2, mode Léon avec, comment elle s'appelle ?
Claire.
Bah oui, voilà.
La honte, je commence mal, ça commence mal Léon. Cette émission.
Claire.
Et puis on parlera aussi un peu plus vite, bien sûr, parce qu'on va prendre le temps sur Resident Evil. On parlera de Catherine Classic, de The Forest, de Future Grind et de Dunwell. Programme chargé, mais vous allez voir, ça va rentrer. On va tout faire. Mais je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Corentin Benoît Gonin, des Croissants. Bonjour Corentin.
Bonjour Erwan.
Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et de retour dans Silence en Joue, et ça fait super plaisir, Camille Suard.
Hello.
Du Journal du Geek et des Croissants aussi.
Exact.
Salut Camille.
Salut.
On commence avec qui ? On commence avec qui ? Avec toi, Patrick. Allez, on commence avec toi. Alors,
avec
un truc où on va avoir la teon de ne pas savoir ce que c'est. Tu vas nous parler d'un Kickstarter.
On nous engueule depuis tout à l'heure.
Ouais,
on se fait pourrir.
Non, mais on se fait pourrir. L'émission n'a pas commencé, on se fait pourrir.
Mais voilà. Non, mais on discute. On va parler un peu remake aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris. On va parler Resident Evil 2, mais aussi Mopiti Island, hein, qui lance son Kickstarter pour un remake du fameux jeu d'aventure. Et c'est là où ça coince, parce que tout à l'heure j'ai compris que vous n'aviez pas forcément une grande connaissance de Mopiti Island.
Le nom me dit vaguement quelque
voilà.
chose.
Ah voilà, ça revient.
C'est un nom qui m'est un peu familier, mais je ne sais pas du tout à quoi il est
relié. C'est un jeu d'aventure sorti en 90 de Lancor. Lancor, c'était ce studio français mythique, c'était un des maîtres du jeu d'aventure en France. C'était la suite du fameux manoir de Morteviel.
On retrouvait
Jérôme Lange, l'enquêteur, qui après donc cette histoire dans un manoir isolé en pleine enneigé, une unité de lieu comme ça un peu renfermée et assez flippante, hop, il partait en voyage et se retrouvait sur une île, et il se retrouvait à nouveau lancé sur une enquête autour d'une histoire de disparition. C'était un des grands titres d'aventure français au début des années 90, c'est vraiment un titre marquant. Et puis on a appris donc que cette licence allait revenir, enfin en tout cas elle a essayé de revenir via une campagne Kickstarter avec un remake du Mopiti Island original. Donc le Kickstarter, la campagne est lancée depuis quelques jours, elle est en cours jusqu'au 2 mars avec un objectif de récolter 50 000 euros pour que le jeu se fasse, voire plus évidemment, avec des paliers et différents ajouts selon ce qui va se passer. Il reste à l'heure actuelle 3 semaines, là on est à 10 000 euros de récolter. Moi, je crois que je vais mettre un billet. Je vais mettre un billet parce que moi, c'est un jeu qui m'a marqué dans mon histoire de joueur. C'est vraiment un de ces titres qui a vraiment. C'était ça l'aventure. Mmh. C'était une enquête avec une ambiance, des galeries de personnages. Un graphisme, c'était Dominique Sablon à l'époque, disparu aujourd'hui, qui était le directeur artistique sur le jeu, qui avait vraiment créé quelque chose en termes de visuel, d'ambiance. C'est vraiment un jeu qui transpirait la passion. Donc là, c'est un nouveau studio, Millennium Prod Cup of Games, qui travaille dessus, un studio qui est basé dans le sud, qui travaille sur cette version remasterisée. Alors, il y a des vidéos déjà sur la page. Alors, on retrouve l'ambiance, a priori. On est de nouveaux canons de réalisation, une vision à 360. On parle, selon les objectifs, et ce qui va se passer, peut-être de version VR. Moi, ça me fait rêver. C'est vrai que retrouver l'enquêteur Lange comme ça en VR, ça pourrait être magique. D'ailleurs, on voit Lange, on le voit le personnage. C'est vrai qu'on l'avait finalement, on l'imaginait plus qu'autre chose avant. Moi, je me rappelle toujours de cette image de présentation du manoir de Morteviel où c'était, en fait, c'était un scan de Humphrey Bogart, en fait, qui habillait. Mais il y avait tout un imaginaire autour de ces jeux sur, voilà, ce look un peu d'enquêteur. Et donc voilà, là, il se met en image en 3D. Moi, ça me donne envie. On voit des manipulations d'objets pour trouver des indices, etc. Il y a un vrai potentiel. Encore une fois, c'est un jeu qui a un cachet, qui fait vraiment envie. Donc, moi, je vais supporter, puis on va suivre ça de près. Donc, c'est pas gagné, hein, parce qu'il y a encore, ouais. Voilà, l'objectif est loin d'être fait, mais bon, on va suivre. Et puis, bah, encore, c'est quand même mythique. Hein. Et puis, on rappelle aussi qu'il y a eu un Tilt d'Or 87 qui a été mis en vente par Jean-Luc Langlois, qui est le fondateur de l'Encore, qui a mis sa récompense en vente sur un site de d'enchères en ligne. Je crois qu'il est parti à 2 000 €. Et voilà, bah, c'est.
Est-ce qu'il y a des problèmes dessous?
Ah, oh bah après, ça le regarde, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il parlait de projet personnel. C'était pas lié à ce remake. Celui donne en tout cas son aval, a priori, à cette version remasterisée de Mopiti Island. Lui, a priori, ne travaille pas dessus directement. Il a donné son feu vert.
Lui qui voulait financer son patio, quoi.
C'est pas lié, a priori. mais en tout cas, voilà, ce sont des vestiges d'une époque, d'une époque très importante dans l'histoire du jeu vidéo en France. Encore une fois, Mopiti Island, c'est un grand, grand titre. Et d'ailleurs, il y avait un troisième volet qui devait se faire, qui ne s'est jamais fait, qui est resté un petit peu comme un jeu mythologique qui ne s'est pas fait, qui devait...
Bon, voilà. Peut-être Vapor, du coup, ils vont relancer le...
C'est pas complètement écarté. Si cette campagne cartonne, si ça se fait, pourquoi pas. A priori, la porte est ouverte et bah, on espère.
Intéressant. Voilà. Et tu fais un petit bilan à mi-course, donc ça veut rien dire, de Red Dead Redemption 2.
Ah oui, j'avais noté dans les news. Rockstar
Tech 2. Peut-être pas aussi important que Mopiti Island.
Ouais, c'est pas quand même clairement en second. Accessoirement, à côté de cette campagne Kickstarter quand même majeure dans l'industrie du jeu vidéo, il y aurait eu 23 millions de Red Dead Redemption 2 vendus à date. Bon, c'est colossal. On rappelle qu'il avait quand même déjà atteint 17 millions en 2 semaines. Donc il est parti très fort, mais il se maintient. C'est-à-dire que les ventes tiennent. C'est pas seulement un feu de paille au lancement. Le jeu se maintient. On sait que Rockstar bosse aussi sur le online. Enfin, il y a tout un travail derrière.
Que GTA V est resté dans le top des ventes pendant
c'est ce que j'allais dire.
Sans parler des microtransactions de GTA Online.
Il fait partie de ces jeux. Un peu à la Nintendo aussi, sont des jeux qui s'inscrivent sur la longueur dans les ventes, qui restent longtemps, qui se vendent longtemps. Alors je pense pas qu'il ira aussi loin que GTA, parce qu'on n'est pas sur la même thématique, on n'est pas sur le même rayonnement.
Ça met pas tout le monde d'accord.
GTA, c'est un titre complètement indiscutable et qui est un vrai phénomène assez unique dans l'histoire du jeu vidéo, notamment le dernier. Mais quand même, on se rend compte que Tech 2 a vraiment une deuxième grosse licence majeure qui s'impose, qui sort d'un premier qui avait... J'ai plus les chiffres du premier.
Tech 2, ils ont aussi NBA 2K, qui cartonne en chiffre de vente, donc ça fait 3.
Mais en tout cas, c'est une très belle performance pour un jeu qui, comme disait Camille, c'est vrai qu'il a partagé, on en a discuté.
Il y en a qui n'adhèrent pas du tout.
Il est clivant, ce jeu, il était osé. Moi, je dirais que c'est un jeu osé pour un titre de cette envergure.
J'ai l'impression qu'ils se sont permis quand même un peu de liberté et un parti pris.
Exactement,
ils ont tranché justement à GTA qui est très dans l'action.
Exactement,
c'est pas un
jeu pour sur mesure pour faire de l'argent. Il fait de l'argent, voilà. Il cartonne, ils se sont donné les moyens de le faire bien marcher, mais ils ont pris des risques aussi.
Oui,
ça,
c'est pas
il faut
un GTA western, quoi.
Exactement, ils ont pris des risques et ça paye.
Corentin, on a vu débarquer ces jours-ci un jeu que personne n'attendait par un studio quand même pas forcément le plus petit de l'univers.
Bah non, parce que c'est Respawn qui est détenu par EA, qui a fait un stream en disant on va révéler notre jeu Titanfall 3, non prank. c'est un battle royale en free to play parce qu'on a besoin d'argent. Donc grosso modo ça s'appelle Apex Legends, c'est donc un battle royale en free to play parce que EA aussi veut bien sa part du gâteau. Ça sort sur PC, PS4, Xbox One, c'est déjà sorti. Pourquoi je dis ça sort, c'est déjà sorti. C'est pas encore sur mobile, on verra si ça sort un jour sur mobile, mais c'est vrai que c'est un marché important des Battle Royale quand on voit les chiffres de PlayerUnknown's Battleground et de Fortnite. Je rappelle, le jeu le plus joué en vrai, c'est PUBG, parce que sur mobile, il cartonne de ouf, notamment en Chine. Et 1 million de joueurs le premier jour, donc c'est plutôt un lancement très encourageant. Bon, il faut dire que le jeu est gratuit. C'est un lancement de Battle Royale. Donc c'était une bonne idée de le faire, a priori, déjà, dans un premier temps. Ça se passe dans l'univers de Titanfall quand même. 30 ans après le 2, apparemment. Alors, ne me demandez pas sur le lore de Titanfall 2. On va peut-être demander à Patrick. Patrick, que penses-tu du lore de Titanfall?
J'avoue que je... Voilà.
C'est un truc où je crois qu'il y a des gros robots.
Voilà. Des gros robots. Alors, il y a
T'as toujours les mechas. Enfin, ça a toujours les gros robots.
J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros robots là. On se pose la question s'ils vont mettre les gros robots. Mais il y a des petits robots, ce qui est déjà bien. Ça se joue en escouade de 3. Alors, ce qui m'embête, parce que moi, j'ai compté, j'ai un ami. Donc, on va voir comment je vais faire. Ça se joue en FPS. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système de classe. Donc, voilà, on se recoupe un peu sur d'autres styles, type MOBA ou Overwatch, ou ce genre de choses. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez vertical. C'est-à-dire que les environnements sont assez, comment dire, sont pas plats. Il y a quand même des systèmes de grappin et tout ça qui sont assez intéressants, notamment avec ce système de classe où on va pouvoir gérer différentes capacités les uns les autres. Alors, par contre, le producteur de Titanfall 1 et 2, il a dit alors, par contre, si vous attendiez à Titanfall 3, faudra peut-être prendre un peu votre mal en patience, c'est pas dans les tuyaux du tout.
Il y a des gens qui attendent Titanfall 3?
Oui.
Non, c'est une question, hein, parce que
l'ami avec lequel je compte jouer à Apex Legends, j'imagine, je sais pas, je vais pas demander, on va lui demander.
Non, parce que c'est pas, on sait que c'est, d'ailleurs, c'est à tort, hein, parce que ça a été des gros jeux.
Non, puis le 2 était bien quand même.
Le 2 était bien, mais ouais,
j'ai entendu que des bons retours.
Bien sûr, mais j'ai pas l'impression que
ça m'a pas plus excité que ça, en fait.
Que ça crée une attente monstrueuse de la part des joueurs.
Le problème, c'est Titanfall 2, c'est un peu comme Arte, tout le monde dit que c'est super, personne n'y a vraiment joué, quoi. C'est
n'importe quoi. Arte, c'est très bien.
Moi aussi, j'adore Arte, tu verras mon qu'est-ce que quand vous jouez pas vous faites quoi de tout à l'heure, tu vas être étonné. Mais voilà, donc voilà pour Respawn qui va avoir du travail. D'accord. Devant lui, Microsoft va étendre les features du Xbox Live à d'autres plateformes, parce que pourquoi pas, notamment iOS, Android et étonnamment Switch. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des achievements, les listes d'amis, les clubs, l'historique
de jeux. Et
Nintendo est d'accord, mais en même temps, c'est pas la première fois que Nintendo et Microsoft font des partnerships.
Oui, sur Fortnite.
Sur Fortnite, sur Minecraft aussi, ils avaient fait une campagne de pub en commun. Ouais, c'est quand même chelou.
C'est quand même pas anodin. C'est vrai, quand j'ai vu passer la news, je me suis dit, c'est un fake, c'est une blague. Ouais. Et non, il y a quand même un... Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Tu peux te poser des questions, des perspectives sur ce rapprochement, sur le fait que Nintendo, tu vois.
Alors, c'est pas vraiment Nintendo qui. Nintendo laisse faire, en fait.
Oui, mais
Microsoft.
Ils ouvrent la porte.
Hein. Microsoft, ils disent juste, voilà nos SDK, chers développeurs, si vous voulez intégrer les listes d'amis et compagnie, notamment pour le cross-platform, n'hésitez pas, comme ça, vous pourrez.
C'est très malin. C'est très malin.
Mais oui, c'est très malin.
Et c'est très malin, parce qu'on sait, ce qui se passe en ce moment, c'est on prépare la prochaine génération. Les vrais enjeux, ils sont là, sur qu'est-ce qui va équiper les prochaines générations. Le cloud et compagnie. Et on sait que Microsoft, ils ont une puissance de feu qui fait que je pense que ces prises de position vis-à-vis de Nintendo ou d'autres, c'est loin d'être anodin.
C'est clair que dans l'acronyme GAFAM, il n'y a pas Sony, il n'y a pas Nintendo.
Et clairement, tu vois, je pense que Microsoft, là, sur cette génération-là, sur la One, ils savent que bon, c'est terminé. Ils vont pas du tout être leader là-dessus. Je pense qu'ils préparent vraiment activement la suite.
Surtout,
et ce genre d'annonce, elle est loin d'être anodine.
Mais surtout, c'est pas les seuls, parce qu'il y a un autre gros éditeurs qui avaient déjà proposé cette espèce de, comment dire, trans-plateforme des
grands jeux.
Et c'était Epic. Epic, on peut se connecter au launcher Epic avec son compte Switch, hein, je rappelle, des fois que vous avez oublié. Et donc, il reste Sony, voilà, tout seul dans son coin, comme d'habitude. Donc, on verra combien de temps il va encore rester à faire le boudin.
À propos d'Epic,
oui, parce que c'est pas fini la guéguerre Epic Steam. Donc, on a 4A Games qui sont les développeurs de Metro Exodus, ils ont demandé aux joueurs d'arrêter de les faire suer. Pourquoi? Parce que voilà, donc pendant les deux semaines, là, Metro Exodus a été.
Quel drame!
Alors, ouais, on va essayer de rappeler. Hein. Donc, Metro Exodus a été annoncé.
Rapidement.
Metro Exodus a été annoncé en exclusivité sur l'Epic Store, au détriment de Steam, sachant que les précommandes sur Steam étaient déjà ouvertes depuis longtemps, donc c'était bizarre. Mais, comment ça s'appelle? Deep Silver Koch Media a dit: oh là là, mais vous en faites pas, ceux qui ont précommandé le jeu pourront quand même y jouer sur Steam. Très bien, sauf que pendant ce temps-là, THQ Nordic, qui détient Koch Media, Deep Silver dit oui, alors c'est leur truc, hein. Nous on n'est pas vraiment d'accord. Donc, qui fait ça? Jamais. Tu sais, c'est un peu comme si Next TV Media disait ouais, RMC ils ont fait de la merde quand même, voilà, c'est pas comme ça, tu c'est pas une façon de faire, quoi, voilà. Et donc ensuite ils ont être open-eyed, en fait non, nous soutenons toutes nos divisions, il n'y a pas de problème et tout. Le problème, c'est qu'au milieu du marteau et de l'enclume, donc t'as les joueurs qui sont pas contents du tout parce qu'ils voulaient le jeu sur Steam, du coup ils harcèlent qui? Évidemment pas Koch Media, mais les développeurs du jeu qui disent nous on n'y peut rien, lâchez-nous, c'est pas nous qui décidons de ça. Si vous n'êtes pas foutu d'installer un putain de launcher pour jouer à notre jeu, c'est qu'au bout d'un moment vous n'attendiez pas vraiment notre jeu, hein, soyons clairs. Donc, et ils ont même menacé de dire si y a un prochain métro, nous on le sort pas sur PC si ça continue parce que vous nous cassez les nouilles. Et donc voilà ce qui se passe.
Ce serait dommage quand même.
Ce qui serait quand même dommage.
Non, mais c'est un point de friction ce jeu. Enfin, c'est-à-dire que c'est le point de friction qui nous fait voir des choses qu'on ne voit pas chez les auditeurs, mais qui ont sûrement cours en ce moment. C'est-à-dire que les discussions très importantes sur quelle plateforme, où on va, etc.
Bah, c'est The Division 2. Là,
oui, on en avait parlé il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a des grosses tractations en ce moment.
Et les tractations sont à la base de Epic Games fait du 12%. Point. Ça rapporte plus d'argent. Quand tu te dis que le launcher est installé sur tous les gens qui ont Fortnite, tu poses pas trop la question.
Ça me surprend. Ce qui me surprend en fait le plus dans cette histoire, dans cette guerre, c'est qu'on a d'un côté Epic qui joue le rôle de nouvel arrivant qui vient de nulle part et Valve qui joue le rôle de multinationale installée. Alors qu'en fait, on est face à deux boîtes. On est face à deux boîtes qui ne sont. Aucune des deux n'est une multinationale installée. On est sur deux boîtes qui devraient être toutes les deux hyper mobiles, hyper réactives et tout ça, parce que Valve et Epic, même si c'est des boîtes importantes, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas Microsoft, c'est pas Sony, c'est pas des trucs monstrueux.
Non, mais il y en a une qui veut conserver ses avantages et son. Sa place et l'autre qui arrive avec les dents qui raillent le plancher.
Sauf que normalement, sur ce genre de truc, t'as des temps de réaction qui doivent être de l'ordre de la semaine. Le temps de réfléchir, le temps de regarder ah ok, eux ils font ça, on va s'adapter.
C'est vrai que Steam,
et tout
pour
ça.
Le moment, on n'a pas trop.
Alors qu'on a l'impression que Valve joue le rôle du rentier, on va pas dire autre chose, du rentier qui est là, qui a ses clients, qui a ses millions, qui a ces trucs-là, on va pas bouger et je trouve ça très étrange de la part d'une boîte comme Valve qui a plutôt une réputation
C'est dû à leur fonctionnement qui est un peu particulier chez Valve aussi, c'est pas une boîte comme les autres, c'est une boîte assez horizontale où en fait cette force d'être horizontale a des bonnes idées, enfin ça donne de bonnes choses et de mauvaises choses. Les bonnes choses c'est que du coup il y a plein de petits projets qui peuvent se lancer, les mauvaises choses c'est que tous ces petits projets ont beaucoup de chances d'échouer aussi, et ce qui fait que chaque décision met un temps fou avant d'être concrétisée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que Valve, pour l'instant, peut-être qu'il est en observation. Je pense que c'est pas une mauvaise décision de la part de Valve pour l'instant de regarder ce qui se passe et de pas trop réagir. On va voir ce qui se passe avec Epic, parce qu'en plus, Epic a eu quelques scandales récemment là, à base de données apparemment qui se sont retrouvés un peu dans la nature. On peut pas encore jouer hors ligne, je crois. Ah non, si, ils vont mettre à jour pour qu'on puisse jouer hors ligne. Donc pour l'instant, ils attendent de voir ce qui se passe vraiment. Ils regardent ça prenne. Je pense qu'ils attendent pour réagir. Ils ont 80% de marché. Ils ont de la marge encore.
C'est déjà vu, des gens qui avaient 80% de part de marché.
Là, on est dans la période où l'un monte en puissance, l'autre est un peu en stress à regarder. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ces moments de friction sur un titre.
Rappelez-vous Internet Explorer. Moi, je dis ça.
En tout cas, pour nous, c'est une bonne nouvelle en tant que joueur, parce qu'on va avoir plus de choix.
Après, voilà, tout le monde a sa grande bibliothèque sur Steam. Est-ce que...
Ça me dérange pas d'installer une autre bibliothèque. J'ai bien installé Origins pour mettre Apex.
PC est plus long à démarrer, ce qui lance tous les launchers quand tu démarres.
C'est relou.
Faut pas lancer au démarrage, c'est une idée aussi.
Dernière petite news d'intro, parce qu'il faut quand même le dire, officiellement, on va dire officiellement, selon le décompte officiel, c'est la 400e émission de Silence on Joue que nous enregistrons en ce moment même.
Le côté solennel de l'annonce.
Il faut le dire. Après, comme à notre habitude, on va pas dire que c'est une surprise. On est à la ramasse pour le fêter dignement, parce que c'est pas.
Ouais, mais est-ce que ce serait Silence on Joue de faire un truc avec tout
fanfaron,
non,
ce serait pas l'esprit.
Je compte ramener un pain surprise la semaine prochaine, mais du coup, c'est
annulé. Mais à la limite, la 400.
Il prend de la place dans mon congèle.
Ouais, c'est vrai.
C'est un coup de
la semaine. La semaine prochaine, c'est bien.
Ok.
Et puis voilà, donc ça fait 400e. Merci. Ça me sidère à chaque fois. Enfin, je voulais juste le dire. Quand sur Twitter, sur les forums, sur Facebook et tout ça, j'ai des gens qui me disent je vous écoute depuis le premier épisode. Je suis là, what? J'ai what? What?
T'es rentré dans une sorte d'habitude.
Comment vous faites? Et d'autres fois, vous savez quoi? D'autres fois, je culpabilise. Je me dis, mais quand même, on vole une heure de temps par semaine à tant de personnes. personnes. C'est un peu, c'est les pauvres quoi.
Bah,
c'est...
Ça va, non, si, mais c'est... s'ils sont toujours là, ils répondent.
Non, non, mais
présent,
voilà. Non, mais bon merci. Trop, voilà, c'était l'occasion. Je le referai. On va réfléchir histoire de valider entre guillemets cette comment on appelle ça ce
cap,
ce seuil, on va essayer de le valider peut-être avec une émission en public, un de ces quatre.
Cette barre symbolique.
C'est le mot complètement à la con que je cherchais, figure-toi. C'est celui-là. Et donc voilà, c'est la 400e. Donc merci d'être à la hauteur, cher chroniqueur. Ah, la pression. Juste avant de commencer, le com des com, un seul de la sur l'émission d'il y a deux semaines, parce que pour une fois cette saison, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, hein, ce qui était quasiment une première. Juste premier tigre, hein, on avait parlé, parce que ça fera une transition très bien avec le premier jeu de cette émission, on avait parlé de la démo de Resident Evil 2 la semaine dernière, et nous avons premier tigre qui dit de mémoire, il y avait bien eu un CD avec la démo de Resident Evil dans un magazine à l'époque. Je me souviens avoir joué à cette démo et je n'ai jamais eu la version Director's Cut de Resident Evil. Voilà, mais c'est et on a eu sur Twitter une photo,
une belle photo de ce
CD démo. Je ne sais plus c'était dans quel magazine d'ailleurs.
CD console plus ou
Gen 4, je
ou
sais
CD
plus.
Console peut-être.
Ah, CD console.
CD console, ouais, à vérifier. C'est... Mais en tout cas, il y a bien eu une galette dans la presse, dans ces moments magiques où sous blister, on trouvait une galette qu'on mettait dans sa console et qu'on lançait. C'était. Mais je pense que ça deviendrait collector, ces tirages, tu sais, de versions coupées de jeu.
Si ça devait passer collector, ça serait déjà.
Tu penses ?
Oui.
Il a une vingtaine d'années, le truc. Ouais. Ah, vérifier.
Non, si c'était collector, ça.
Laisse-le espérer d'avoir un patrimoine. Je suis sûr qu'il en a encore chez lui.
Moi, j'ai la Director's Cut, donc j'ai la galette qui était dedans.
Tu sais, le jour où il y a eu les premières ventes aux enchères de jeux vidéo, Patrick a compris qu'il était riche.
Non, mais la démo, c'est un truc. Tu vois, je me rappelle chez Nemo, il y avait une démo très particulière aussi. Où tu avais un.
Moi, j'ai gardé mes CD de démo.
Non.
Ouais, moi aussi, je les ai gardés. Dans des bacs.
Non, je te jure.
Mais non, mais ça va être un charme, tu vois. Je sais plus comment elle est, celle de Resident Evil 2, ça doit être le début, puis on te dit, bah, stop, et la suite, quand vous achetez le jeu, tu vois, il y avait je pense qu'il y a un petit charme, un peu.
Moi, j'avais le souvenir, mais c'était les versions shareware de Doom et.
Le premier épisode, le premier chapitre.
Ça c'était
ah bah, tu cliquais tout de suite, bah, c'était fait pour.
Eh bien, chers amis, c'est le moment de retourner en quelle année ? En 98. 98. Oui. Souvenez-vous, c'était le deuxième épisode avec en réalisateur Hideki Kamiya, hein, qui fera plein d'autres choses derrière. En producteur Shinji Mikami, quand même, qui fera plein d'autres choses derrière, qui en avait fait plein avant. Et le jeu, c'était Resident Evil 2, et il ressort là. Il est tout beau, tout neuf. C'est un jeu de 2019.
By the way, rumor has it go straight to your underground lab.
Lab? You gotta be kidding me.
Get off of me!
Get the hell out of here. Before it's too late.
What's going on here?
Resident Evil 2. Camille, tu l'as dit, on en a discuté, et ça fait déjà quelques semaines, c'est le jeu important de ta jeunesse.
C'est un des jeux très importants de ma jeunesse sur PlayStation. Ouais. Au début, je regardais ma sœur, je me cachais derrière, elle me disait « bon, tu le diras pas à maman, mais vas-y, regarde ». Et après, j'ai joué, et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué dans ma vie de joueuse. Alors voilà les souvenirs que j'avais en tête avant de commencer le remake, c'était beaucoup d'exploration, faire de nombreux allers-retours, chercher des clés avec des cœurs, des carreaux, pour finalement oublier... dans quelle serrure les mettre, faire des mauvais mélanges de plantes, prier pour trouver un futur ruban encreur, des zombies lents qui meuglent, des chiens trop rapides, une héroïne et un héros très lourds et très raides dans leurs mouvements. Mais heureusement, une vingtaine d'années plus tard, l'aventure a été remise au goût du jour. Fini la caméra avec un plan fixe qui certes participait à la singularité et à la mise en scène de l'angoisse, maintenant on est vraiment plus proche du personnage avec une caméra vraiment sur l'épaule. Et du coup, on est un peu moins spectateur, je trouve, on a moins de recul pour le coup, et on est un peu plus impliqué.
Mais on revoit quand même les images de 98. C'était quand même un jeu impressionnant.
Ah, oui, il y avait beaucoup de pixels, mais c'était déjà très flippant. Mais
je trouve que moi, c'était la bande son qui m'avait.
Mais oui, et du coup là,
c'était magnifique.
La bande son, ouais, des fois, je t'avoue, je l'écoute. Et du coup là, j'étais un petit peu déçu parce qu'on l'entend pas en fait cette bande son.
Tu peux l'avoir en option, je crois. T'as une option pour avoir la bande son old school.
C'est pas en DLC.
Non,
je pense
non,
que c'est la version spéciale du
non,
jeu.
Non, je pense pas.
Mais bon.
Je te redonne la parole, Camille.
Ah oui,
je te redonne la parole.
Bon, voilà, donc comme tu le dis, là, c'est vraiment un gros jeu de 2019. Hein, et du coup, bah, ça fait... En fait, j'ai ressenti autre chose, quoi. C'est-à-dire que j'ai ressenti vraiment de l'horreur. Parce que t'as vraiment des scènes où t'as beaucoup de détails et ils te montrent bien, ils insistent bien, t'es là, t'as pas le choix, t'es en train de regarder avec les yeux du personnage et t'es en train de voir, ils sont vraiment en train de te montrer presque le travail d'orfèvre qu'ils ont vraiment appliqué pour ce remake. Et du coup, bah, j'ai vraiment eu des moments où j'ai ressenti du dégoût.
Et ça arrive très vite.
Ça arrive surtout au début, au final, quand t'arrives dans le commissariat, t'as deux, trois moments où t'es juste là, mon Dieu, à quoi je suis en train de jouer, est-ce que je vais vraiment pouvoir continuer
qui perd son unité d'être,
oui,
en fait, par exemple.
Voilà,
je ne sais pas comment dire sans trop spoiler.
Voilà, pardon, ouais, j'ai peut-être un petit
peu... Non, mais c'est au début du jeu, on peut en parler. Cette scène, elle est trash.
Elle est mythique, effectivement. Mais moi, c'était le suivant qui m'a un peu plus...
Moi aussi, le mec assis
par terre.
On peut spoiler un peu ou pas?
Non, mais là, on ne spoil pas l'histoire.
C'est le remake d'un jeu de 98, ça va peut-être aller.
Ah oui, mais attention, il y a des joueurs qui le découvrent. C'est important de le découvrir.
Bonjour.
C'est important.
Moi, j'avais l'ode.
Donc il y a aussi.
Ouais, mais il y a prescription quand même. Oui. Hein, je dis.
Non, mais
puis, pour ça, on peut. Hein, ça dévoile rien.
Oui, puis mais bon, c'est dans la déformation, mais en même temps. Le je trouve que la sensation quand on fait ces scènes-là, c'est de se dire. C'est pas une arnaque, quoi, ce Resident Evil 2. C'est vraiment, voilà, on joue à un truc qui a été repensé, qui donne une expérience qui. Et je sais pas comment ils ont fait, il y a ce sentiment de fidélité à l'original.
Exactement.
Et en même temps, une mise à jour, en fait.
Ouais, je trouve qu'ils ont trouvé un très très bon équilibre entre ces deux choses-là. Et tu as l'horreur, mais tu as quand même encore ce côté survie. Ce côté survie et ce côté un peu angoisse de l'ombre qui plane et tu sais pas trop ce qui va se passer. Mais en fait, je trouve qu'il est... Enfin, moi, c'est mon ressenti, je trouve qu'il est beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire, t'as toujours des moments où bah voilà, t'as plus beaucoup de munitions, t'as plus beaucoup de plantes. Mais je trouve que t'es moins dans la mouise. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, bon, ok, j'étais une gamine, mais j'ai souvent recommencé une partie parce que je me suis retrouvée dans une situation où je me dis, mais je peux pas continuer, en fait.
Ouais.
Donc, du coup, je trouve que là-dessus, ça a été plutôt pas mal. Et il y a quand même des ajouts, si je me trompe pas, quand tu as un moment, tu peux jouer avec un second personnage et ça apporte un petit peu un moment de, on va dire, ça fait un peu un break. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa dans le déroulé de l'histoire. Et puisqu'on parle de l'histoire, au final, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est très fidèle, comme tu le dis. Et il y a juste quelques moments qui sont un peu mieux amenés, on va dire. Ça fait un peu moins kitsch, parce que je me souviens de certains dialogues qui étaient complètement... c'était vraiment très cliché. Après, l'histoire reste quand même très cliché. Enfin, c'est très convenu, il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais bon, je trouve que ça passe mieux.
Je trouve quand même qu'il y a quelques fulgurances, moi, qui m'ont surpris. Je trouve que, alors moi, c'est là où je trouve que le jeu tire bien son épingle, c'est que à la fois il t'endort dans une sorte de confort. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'exercice du remake, alors, notamment au cinéma, parce que c'est une pratique. Je trouve ça toujours fascinant. Alors c'est souvent raté. Hein. On a combien de Psychose, de Gus Van Sant qui reprend le chef-d'œuvre de Hitchcock et finalement ça sert à rien.
Et je peux vraiment pas m'empêcher d'être attiré par ce genre de produit, en fait.
Moi, c'est pareil. Et il faut, tu penses à The Thing de Carpenter, qui est un remake, mais qui sublimait quand même le matériau original, la mouche de Cronenberg, qui avait vraiment apporté quelque chose. Donc le remake, parfois, il arrive à transcender le matériau d'origine et à apporter des choses. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans l'exemple type avec ce. Moi, je le trouve brillant, ce remake. Alors, moi, je suis un fan du Resident Evil 2, moi, j'ai un rapport un peu spécial avec ce titre parce que c'est un de ses premiers jeux où je me rappelle qu'il y avait une date de sortie que moi, j'attendais, qui avait été fixée, machin. Je me rappelle appeler ma
t'avais
boutique. Vous l'avez reçu, ça y est, oui, il est arrivé. C'était un événement, Resident Evil 2. Bah, on sortait à peine du choc du premier, qui avait été une baffe monumentale. On avait été teasé avec ce Director's Cut, avec une démo jouable. Donc, moi, RE2, je l'attendais comme un fou. Et alors, je me rappelle avoir été un peu déçu sur le coup. Alors, plus de full motion vidéo avec des acteurs en intro, tout ça. Il y avait un vrai tournant en réalisation. Après, moi, j'avais été... J'avais trouvé, je me rappelle déjà à l'époque, l'expérience un peu courte, mais j'avais été assez fasciné par le côté jeu à tiroir qu'on ressasse, qu'on refait dans tous les sens avec les différents scénarios. C'était vraiment une trouvaille à l'époque.
Ouais.
C'était nouveau, hein, ce genre de façon de faire. Et c'était,
dans Lone in the Dark, il y avait deux personnages, mais c'était le même scénario.
Oui, mais par contre, je trouve ça manque. Enfin, je m'attendais à plus d'interactions entre les deux personnages, un vrai croisé. En fait.
Surtout aujourd'hui.
Et dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était plus. Mais...
Parce qu'il y avait pas, à l'époque, voilà, c'était. Mais ça, à l'époque, c'était révolutionnaire. Et aujourd'hui, voilà, c'est vrai que ça aurait mérité, je suis complètement d'accord, d'être approfondi, ça, avec les technologies d'aujourd'hui. Je pense d'avoir plus d'intersections entre les
croisements. Après, moi, j'ai fait qu'une seule campagne avec Claire. Peut-être que quand tu fais les deux, plus après le scénario bis, peut-être que là, tu as plus d'échanges.
J'ai regardé sur YouTube les différences, justement, en fonction de avec qui tu commençais ou quoi. Quand on commence avec un personnage, en fait, le deuxième personnage sera aux endroits du premier personnage si on avait pris le deuxième personnage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les places sont interverties en fonction du premier personnage qu'on va prendre. Ce qui est très bizarre. Enfin, moi au début je pensais oui, donc si je prends si j'avais pris Claire, j'aurais été de l'autre côté de la grille. Et ben non, en fait, si j'avais pris Claire, en fait, j'aurais été à la place de Léon et Léon aurait été à la place de Claire. C'est très étonnant.
Oui,
je
suis allé voir sur
Ouais, et alors après sur le reste de l'aventure par contre,
ça change bien. Tu fais d'autres rencontres,
Léon ne rencontre pas un certain personnage, Claire ne rencontre pas un autre certain personnage.
On va pas en dire plus,
mais c'était vraiment l'ADN du jeu, il avait un côté un peu Rubik's Cube, un peu de le refaire dans tous les sens, et c'est rare comme les jeux d'aventure qui ont une replay value comme ça qui t'encourage clairement à y revenir.
C'est presque inédit,
à relancer
comme
ça
dans
tous les sens. C'était vraiment la figure de style à l'époque, et je trouve que ça marche toujours bien. Après, moi je trouve dans ce côté remake en 2019 d'un jeu d'il y a 20 ans, je trouve qu'il fait très très fort, parce que moi il m'a surpris dans des moments où justement où t'es dans une sorte de confort, c'est assez fascinant de revisiter. J'en avais un peu parlé lorsque je l'avais pris en main il y a quelques semaines. Il y a un côté fascinant pour un jeu vidéo de revisiter avec des technologies d'aujourd'hui des lieux que tu connais sous un autre angle,
parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas pareil.
Je
m'en rappelle d'arriver au commissariat, de prendre un couloir, de me dire ce couloir, je sais ce qui se passe dans ce couloir. Et finalement, il n'est pas là, mais il arrive plus tard. Et du coup, t'es toujours dans le stress à te dire mon Dieu, ça va arriver, je le sais.
C'est marrant, j'ai regardé un comparatif des deux jeux hier et je sais exactement de quoi tu parles. Ils ont changé les endroits de certains monstres.
Et c'est à cet endroit que t'as la scène, la deuxième scène dont on parlait, Erwan, qui est vraiment très flippante.
Oui.
Ouais, et puis moi je trouve qu'il fait très fort dans ce, justement en tant que joueur, t'as ton bagage de joueur, tu l'as fait il y a 20 ans, donc t'as tes souvenirs, t'arrives là, tu te crois un peu à dire bah oui je retrouve les endroits, puis t'es surpris. Enfin moi la scène de l'armurier au tout début du jeu avec sa fille, je l'ai
tout
trouvé...
début au milieu du jeu
c'est première partie Si, dès le début, moi j'ai trouvé je trouve qu'il y a des vraies fulgurances comme ça. Et effectivement, je trouve qu'au niveau de la réalisation, on est sur du quasi photoréalisme. Et je trouve qu'il développe vraiment une ambiance angoissante. Il y a des vrais effets visuels.
Et puis là, t'es
visuels.
Vraiment dans le noir, quoi. T'es avec ta petite lampe torche et
puis,
tu vois que dalle.
Et puis, mine de rien, je trouve que ça fait plaisir de renouer avec un Resident Evil pur jus, un peu old school dans les mécaniques. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment ce côté. Après le 7 qui était.
Oh là 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 là.
Le 7 qui était pas un spin-off. Enfin, qui était presque un spin-off dans l'esprit, qui était beaucoup plus expérimental pour moi. Le 7, il reste il était fascinant pour sa façon de un peu démonter les mécaniques et de réinventer autre chose. Le 7, pour ça, il questionnait complètement la logique.
Et puis on s'éloignait quand même radicalement de la mythologie Resident Evil, que là, ce Resident Evil
c'est
2,
c'est
un peu la fondation même, parce que Resident Evil 1, c'était un survival horror.
Tout le monde se souvient du Resident Evil Commissariat.
Parce que c'est là la mythologie.
Ah c'est là où elle s'étend, où elle se développe.
Voilà, la mythologie de Resident Evil, c'est le 2.
Oui, et puis il y a une vraie ambiance crépusculaire. C'est ce qui m'avait marqué à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Je trouve que c'est vraiment respecté. C'est la fin du monde. C'est-à-dire qu'on passe du premier qui était
isolé
dans un endroit bien confiné. Ouais. Ça se terminait, on disait c'est fini, plus ou moins. Il y avait quand même des indices qui nous disaient que c'était loin d'être fini. Mais c'est vrai que le 2 ouvrait tout ça et on arrivait évidemment dans les codes du cinéma de Romero c'est l'invasion de zombies qui est partout et qui est une menace globale et c'est vrai que à l'époque déjà il y a une vingtaine d'années je trouve que le jeu il ouvrait cette suite l'ampleur du scénario et des événements de
mais,
la mythologie
mais ce que tu dis est très résidente. Exact c'est ce qui surprend et ce qui est ce qui est très étrange à jouer, c'est qu'on a dans les mécanismes, dans les graphismes évidemment, dans la maniabilité des personnages quelque chose qui est fondamentalement moderne, évidemment.
Encore un peu raide quand même. Dans
encore
les
un petit peu raide, mais à la limite, on est dans l'hommage.
Vu d'où on vient, on vient de très loin. En fait.
Et alors qu'il y a des choses sur le principe même du jeu, sur la construction même du jeu, eh ben, qui est daté, mais qui n'est pas désagréable pour autant. C'est-à-dire que c'est pas has-been.
Non, ça respire les années 80, fin des années 90, qu'on aime bien.
Tu n'aimes pas les années 90.
C'est pas la question.
C'est tout l'exercice.
Non, mais c'est ça. Alors, franchement, je suis plutôt d'accord sur 90% que vous avez dit, et c'est un très bon jeu, et je suis d'accord. J'ai passé un très bon moment sur Resident Evil. Mais pardon, mais il y a des moments de backtracking dans ce jeu, mais insupportable.
Backtracking.
Ah oui, pardon, excusez-moi, parce que j'ai encore fait engueuler. De retour en arrière dans le level design. C'est insupportable. De backtracking.
Heureusement que t'as pas joué à l'original parce que t'aurais pleuré, mon pauvre Corentin.
C'est pas une putain de raison. Voilà. Là, il y a quand même un jeu où il y a des moments où on fait vraiment beaucoup d'allers-retours, surtout qu'ils te mettent dans les pattes le tyran, hein, Monsieur Chapeau, qui vient quand même vous embêter la plupart du temps.
Tu peux pas critiquer le tyran. Enfin, il apparaît
dans le
jeu.
Si, je peux critiquer le tyran.
Mais je trouve que le jeu, il arrive à. En fait, pareil, encore une fois, tu t'installes dans une routine. C'est vrai qu'au début, tu arrives, bon, tu commences à retrouver tes repères.
Et à comprendre que t'as juste à courir, en fait.
Tu nettoies un peu les endroits comme on fait toujours. Dans un résident, tu t'appropries un petit peu et puis lui il apparaît et je trouve qu'il te développe une tension pendant toute la partie.
En fait, mais tu revois ta façon de jouer parce que après, tu
t'es en stress tout le temps.
Tu peux plus.
Et à ces moments où tu entends les bruits de pas.
Je suis le seul à avoir fait Resident Evil 7 parce que c'est Jack, hein, c'est le même game design, c'est la même chose. Et une fois que t'as compris ça, tu fais mais vous n'allez pas me resservir Jack. Jack c'était déjà pas cool. Vous n'allez pas me remettre Jack. Et le problème en fait,
Il apparaît à un moment justement, il arrive.
L'apparition.
J'adore le moment. J'adore le moment où il apparaît. Le moment où il apparaît. En plus Léon il pète un plomb, il fait oh tu te fous de ma gueule. Enfin genre il dit vraiment une punchline comme ça et t'es en mode ah là là c'est marrant. Moi ça me fait rire. Je me casse. Hein, je vois ce machin. Je me casse. T'es dans un monde ouvert.
Moi j'ai mis pause. Enfin j'ai crié, j'ai mis pause.
Et donc dans le 2, c'était scripté, c'est sur des passages bien, bien précis. En plus, il fallait le flinguer pour qu'il tombe par terre et qu'on puisse s'en aller. Là, il faut se barrer. Et sauf qu'on ne faut pas se barrer une fois, il faut se barrer tout le temps. Parce qu'après, tu dois finir le commissariat en ayant le tyran sur le dos.
Bah, moi, j'ai fait des pauses dans les safe rooms. Hein. Une fois que j'ai compris qu'il venait pas dans ces endroits-là, j'ai fait des pauses.
Bien sûr, mais il faut quand même finir les puzzles à un moment donné.
Oui.
Voilà, c'est ça. Donc,
mais ça met un coup de pression.
Et c'est vrai que je te coupe, mais c'est important ce que tu dis hein, sur les safe rooms. Et il y a encore des ruptures dans les pièces.
Mais j'ai hésité. Parce que comme j'entendais pas la musique,
il y a certaines safe rooms où il ne vient pas. Il y a certaines salles d'ailleurs où il ne vient pas tout court. Bon, faut les connaître. Il y a certains endroits où il ne va pas. Mais oui, il peut venir vous chercher dans la salle de sauvegarde ou mettre un coup de pied. Oui.
Ah, j'ai pas vu ça.
Typiquement, le hall, le commissariat, le hall principal.
Ah oui, le hall principal.
C'est techniquement une safe room, hein. Mais
non, parce qu'il y a déjà un zombie qui se promène.
Oui, c'est vrai.
Mais
c'est là où je trouve que c'est pas mal. Enfin, il y a ces petits effets avec le tyran qui sont sympas. Que j'ai bien aimé à titre personnel, donc il y a la découverte et le moment où tu te rends compte que mais qu'est-ce qu'il fait là, mais va-t'en, je veux finir le jeu.
C'est la partie de l'attention.
Et puis oui, mais une fois que ça s'est passé, il est juste relou. Enfin, tu l'entends, tu fais comme ça, et tout le passage dans la tour de l'horloge où t'essaies de comprendre où tu dois aller, déjà que c'est sinueux.
Je me suis dépêché là-dedans, je me suis dit il va arriver, ça va être l'enfer, je vais être coincé.
Sache que la tour de l'horloge c'est une des salles où il ne peut pas aller.
Ah, bah c'est
une des salles où il ne peut pas aller. Il s'arrête, il s'en va. Et voilà. Bon, bref. Et donc, ce tyran-là, il y a ces histoires donc, de backtracking tout le temps, parce que j'ai pas eu fini avec ça, mais vraiment, on donne un objet, il faut aller de l'autre côté. En plus, c'est pas direct. Je sais pas qui est l'architecte de ce commissariat. Mais
c'est
il faut le virer.
Oui, c'était une erreur à la base.
L'architecte
de ce
commissariat. Stop, parce que là, on touche à quelque chose d'important. C'est l'ADN de Resident Evil. C'est-à-dire que t'es dans une situation de fin du monde et tu vas passer une heure et demie à chercher des clés ou des blocs de pierre que tu dois enclencher, des cristaux. Ça fait partie du délire Resident Evil. Et là, c'est pour ça que je dis qu'on est dans un pur épisode de la série. C'est que tu retrouves ces codes qui ne sont pas du tout réalistes. C'est-à-dire que tu es dans une ambiance
si
de fin du monde.
Envahie de
zombies. Est-ce que tu vas passer une heure et demie à aller chercher un objet pour aller enclencher la tour de l'horloge? Non, tu te barres.
Mais on avait réussi à faire les choses bien dans le set. Pourquoi on revient en arrière? Pourquoi on n'est pas capable de
Parce que c'est un remake.
C'est on peut peut-être essayer de remaker ça aussi, tu vois.
En fait, ce que tu décris comme un défaut, ce qui est objectivement un défaut. Objectivement, tu as raison. Mais ça reste quelque chose qui nous ramène en arrière, qui nous dit finalement.
c'est... Après, j'ai pas fait le 2, c'est aussi peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça d'ailleurs.
Bah oui.
Bah, tu l'as fait.
Et les, dissonances qui sont.
Non, mais c'est intéressant de, justement d'avoir un avis vraiment.
Mais les dissonances qui sont absolument incroyables, les dissonances. Tu vois, t'as quand même un code avec des petites roulettes là dans, le hall principal du commissariat pour avoir le médaillon du lion. Il est accessible au public. Je veux dire, imaginons, tu vois, avant que les zombies arrivent, qu'il y a des gens qui peuvent passer et essayer à peu près tous les codes de l'univers et récupérer un médaillon du lion.
Mais qu'est-ce que,
mais personne ne l'a fait.
Mais est-ce que tu y penses en jouant? Eh ben non, parce que t'es dans le jus. Tu vois,
j'arrêtais pas d'y penser. Pas à ça en particulier, mais par contre, un système de sécurité pareil.
Alors non, par contre, moi, j'y pense pas parce que je suis dans les codes résidents. Ça fait partie de la maison. Ça fait, on est à la maison. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est la question de, on a ce clash un peu entre un côté old school des énigmes et tout, et un photoréalisme aujourd'hui qui arrive avec ce 2. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ces codes un peu poussiéreux, mais qu'on aime bien, et ce clash d'une réalisation où on arrive sur du réalisme quasiment photographique.
Tu parles de réalisme.
Et je trouve que ce clash entre les deux est fascinant. Enfin, tu vois, d'avoir à la fois des codes old school et une réalisation digne d'un film live.
Tu parles de réalisme, je vais rendre hommage à ce moteur. Le RE Engine, il est bon, incroyable ce moteur.
Les volutes de fumée, d'ambiance.
Le marbre qui brille.
J'ai un ordi qui est un peu vieillissant, le jeu est magnifique, quoi. Hitman, il ramait ses fesses. C'était beau. J'ai baissé tous les trucs, mais il était encore très beau. Sincèrement, ce moteur, je le trouvais déjà génial pour Resident Evil 7. Là, je crois qu'ils vont le réutiliser pour Devil May Cry. Mais bravo, quoi. Je trouve qu'on est au niveau du Fox Engine à l'époque. Hein.
Et puis, je trouve qu'avec son photoréalisme dont on a déjà parlé, je trouve qu'il apporte un côté glaçant aux rencontres avec le moindre zombie de base. Déjà, ils sont costauds. Ils sont difficiles. Je trouve que le niveau de difficulté, quand même, me semble remonter par rapport aux deux d'origine. Et justement, tout ça s'accompagne. Il y a ce côté un peu kitsch des énigmes, mais qui finalement fait la recette Resident Evil, ce photoréalisme des zombies, ils sont glaçants, ils font flipper. Ouais. Tu les rencontres, ils se défilent quand ils tirent dessus.
Et les déplacements aussi. Je trouve que les déplacements des zombies...
Ils sont beaucoup plus rapides. Hein.
Ils sont moins prévisibles aussi. Ouais, ils sont imprévisibles comme des zombies, c'est-à-dire qu'ils vont passer à gauche, à droite, avancer...
Derrière une porte tu sors une porte...
Mais oui
La porte étant l'objet le plus important d'un survival horror, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte, on n'est pas sûr.
Maintenant, t'as plus cette pause.
On
n'a
plus la pause, même pour les escaliers, tout ça. C'était.
Je suis un peu mitigé sur la difficulté, ou en tout cas le gameplay des combats de ce Resident Evil. Ce que j'avais bien aimé dans le 7, notamment, c'était la possibilité de garder. Et c'était là, il fallait garder. Si tu gardais pas, tu mourrais très souvent dans Resident Evil 7. Et dans les autres Resident Evil qui étaient plus portés action, évidemment, qu'on pouvait plus facilement se débarrasser des zombies, tout ça. Ici, j'aime bien l'idée d'avoir des zombies très résistants. C'est des sacs à PV.
Ils
ne tombent pas par terre. C'est insupportable. Tu peux vider toutes tes cartouches sur un zombie. C'est hallucinant.
Donc,
assez rapidement, le jeu. Assez rapidement, tu te rends à l'évidence que tu ne peux pas tuer tous les zombies. Mm-hmm. C'est pas possible. Sauf que je trouve que le jeu n'est pas assez clair avec toi pour te le dire. N'est pas assez clair comme un Dead Space pouvait l'être à son époque en disant tire pas dans la tête, tire dans les membres.
Je suis d'accord, mais en même temps, ça participe à un côté âpre de l'expérience.
Mais moi, le côté âpre, t'es
en stress, t'as le tyran qui te court après, t'es en stress au moindre. Tu vois deux zombies devant toi, tu dis oh là, ça y est, je suis mal barré.
Je sais pas trop comment faire, mais c'est comme ça. C'est comme si en fait t'étais vraiment projeté dans le jeu et que ça y est, il y avait une invasion de zombies et tu savais pas trop comment gérer le truc en fait.
Ouais, mais on est
Laissé.
On est complètement désarmé, je trouve, dans ce jeu-là. C'est-à-dire que dans d'autres Resident Evil, il y avait toujours une petite chance de réussir quelque chose. Là, il y a des moments où tu sais que tu vas te prendre un coup. Ouais. Tu sais, tu ne peux pas passer zombie. Le zombie va t'attraper.
Tu n'as plus les indices de l'original avec le sang qui coule et que là, tu sais qu'il est vraiment mort et qu'il va pas se relever. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, leur écrabouiller la tête.
En vrai, il y a les petits glitches du moteur. Des fois, ça te dit s'il est mort ou pas.
Ce côté
ragdoll.
Mais oui, moi au début, j'attendais. Je fais pas. Il est pas mort.
On est sur l'hybride. Hein. On est entre la représentation, donc le gameplay d'un 4 ou 5 ou 6 et les codes du plus aventure, entre guillemets, du 2. Et du coup, on est sur un gameplay un peu hybride. Et du coup, on peut pas achever comme on pouvait le faire dans les versions plus action. Et ça m'a un peu manqué ce côté. Mais encore une fois, je trouve que ça alimente ce stress continu. Que même une salle que tu as visitée, tu y reviens, mais tu as le stress. Et puis moi, je trouve que la vue troisième personne, ou quasi subjective, parce que tu le vis quasiment comme ça, ça apporte
t'es plus impliqué, je trouve.
T'es dans l'exploration quand t'arrives dans un endroit où tu vois rien, t'as juste ta lampe torche, t'as un vrai stress au moindre râle de zombies. Enfin, t'as vraiment
une des performances, moi je trouve, c'est qu'ils ont réussi, parce que la base des Resident Evil de cette époque-là, c'était quand même le hors-champ. C'était le truc le plus stressant de l'univers, d'avoir cette caméra fixe et ces zombies qu'on entend, qu'on voit pas, et tout ça. Et le hors-champ. Et en fait, je trouve que ils ont réussi à recréer ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses où mécaniquement, ça va t'arriver dans le dos. Enfin, tu vas les entendre dans le dos, vu que t'as et tu vas te retourner. Le temps que tu te retournes, ils sont déjà sur toi. Et du coup, je trouve qu'ils ont réussi à garder le hors-champ du 2 en gardant cette caméra libre. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez réussi là-dessus.
En fait, il y a une grosse réflexion sur la lumière. Ils jouent beaucoup avec les ombres.
Exactement.
Des fois, t'as des projections, tu te dis, oh mon Dieu ! Ah, mais non, en fait,
c'est classique. Moi, j'ai vu l'ombre immense, j'ai fait, c'est bon, c'est une statue, on me l'a fait 12 fois dans les jeux d'horreur. Par contre, il y a d'autres moment où tu te rends pas compte de ce qui est en face de toi, ou alors genre tu as une lampe devant toi et tu vois le zombie qui avance doucement et c'est qu'une ombre, mais c'est génial ce moment-là
une statuette à un moment, t'as une statuette qui est éclairée, c'est fabuleux, t'as tes effets de mise en scène comme ça, tu sursautes, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe,
il joue avec toi,
et l'air est épais, même je trouve à l'écran, l'air, tu vois l'air qui
tu vois des grains,
ouais, ça bouge, en fait c'est toujours animé, et c'était quand même le challenge pour moi de ce Resident 2, c'était à la fois, c'était un vrai challenge, c'était de plaire aux vieux qu'on jouait à l'époque, aux deux, qu'on a souvent des souvenirs améliorés avec le temps, on le sublime, plaire à ces gens-là, et en même temps, ne pas se couper des joueurs qui vont débarquer et le découvrir. Ouais. Donc moi, en tant que fan de l'original, je valide à 200%, je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail de fou, chapeau bas. Après, je serais curieux d'avoir quelqu'un comme toi, tu l'as découvert là, donc toi, tu remarques plus
J'ai bien aimé, mais je trouve qu'il est daté sur plein de points. Mais après, moi, il y a plein de choses que j'ai aimé. Par exemple, le tout premier... Alors, j'ai joué au 1, mais j'ai jamais fini, et après j'ai fait le 4, donc j'ai découvert Léon.
Attends,
vraiment
t'as fait le 1 sans le finir,
j'ai jamais réussi, mais j'étais très jeune,
mais
le 4 c'est le premier que j'ai fini, donc j'avais un rapport avec Léon, et là j'ai découvert un Léon jeune, innocent,
première journée de travail,
un bleu quoi,
un vrai bleu, et je l'aime bien.
Moi,
Léon,
il est moins roux qu'avant,
et j'aime bien Claire aussi, j'aime bien la relation entre Claire et Léon, les deux personnages sont aimables, enfin franchement ouais, j'aime bien son look aussi, là ils ont un bon chara-design tous les deux, mais c'est la force du RE Engine encore de faire des beaux personnages. Mais c'était vraiment chouette, j'ai bien aimé.
Je pense que c'est une date dans la notion de remake, non pas au cinéma mais en jeu vidéo. Je pense qu'il impose
un vrai remake,
un standard de remake, de réinterpréter un matériau qui a une vingtaine d'années, en apportant des choses, en tentant de nous.
Oui, puis de toute façon, on verra bien dans quelques temps avec Resident Evil 3.
je pense qu'il sera certainement.
Pour conclure, parce que je pense qu'on a bien compris l'intérêt de ce Resident Evil. Vous attendez hors un Resident Evil. Est-ce qu'il y a d'autres jeux des années 90 que vous espéreriez revoir?
Silent Hill.
On reste dans le même premier, principe, alors.
Je pense que c'est très dangereux.
Il a déjà été vraiment remake avec la version Wii.
Oui,
qui est vraiment bien, cette version.
Un remake déguisé.
Pour moi, pareil, c'est un vrai remake.
C'est
un jeu qu'ils ont transformé en survival horror, en un jeu d'enquête presque. Et c'était vraiment très intéressant, ce remake.
Patrick, t'as une...
C'est une colle, là, comme ça.
Ah ouais, là, comme ça, t'avais pas réfléchi.
Sur les années 90, alors...
Je sais pas. J'ai aucune idée. Myst, peut-être, je sais pas.
C'est délicat, c'est toujours délicat. Et encore une fois, je trouve.
Non, un vrai remake, refaire Myst, vraiment.
Moins
le côté cryptique et compagnie.
C'est pas anodin, parce qu'il y a toujours des attentes. Là, on touche à un jeu mythique. RE2, il a été salué. Il a vraiment une aura mythique, dans la saga. Ils ont réussi un vrai coup de force, ça. C'est de plaire à peu près à tout le monde, d'après ce que je vois. C'est loin d'être gagné. On peut souvent abîmer un jeu en le remake.
Grosse pression sur Final Fantasy VII, quand même.
Ah, bah alors là, on n'en parle même pas, parce que. C'est vrai qu'on est dans les mêmes tonneaux de culte, sur un jeu qui a aussi qui a vieilli. Et du coup, ça pose pas mal de questions. Mais chapeau bas, parce que moi, je prends un pied pas possible à... Et c'est fascinant de revoir des endroits comme ça qu'on connaît et finalement qu'on redécouvre. Et je trouve qu'on a un rapport au jeu qui est assez, assez intéressant. Et c'est particulier aux jeux vidéo parce qu'on s'attache à ces endroits. Et bon.
Vous voyez Arwen faire des grands gestes à Patrick.
Allez, on va enchaîner parce que c'est le moment d'accueillir Jérémy Klitskin et sa chronique jeux de société. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Cette semaine, je veux vous parler de Treasure Island, l'île au trésor. La première chose qui vous surprendra quand vous ouvrirez la boîte, c'est la quantité et la qualité du matériel. Vous avez un grand plateau au centre de la table qui représente le plan du Nil, des plateaux secondaires, des petits personnages, il y a des feutres effaçables de plusieurs couleurs, et puis un grand compas, et puis plein de petits objets en plastique, on a l'impression de se retrouver en classe de géométrie. Treasure Island est un jeu asymétrique. Un des joueurs joue le rôle de Long John Silver, un grand pirate de renom mais qui a été emprisonné par sa bande sur cette île dans une tour représentée sur la carte. Long John Silver va donc dévoiler des indices un par un que les différents pirates vont utiliser pour tenter de découvrir où a été enterré le trésor. Chaque joueur dispose d'un petit paravent derrière lequel il a une copie de la grande carte sur laquelle il peut dessiner avec son feutre effaçable les zones et les indices qu'il va recevoir durant le jeu. La partie se déroule durant 17 jours, 17 tours. Lors de son interrogatoire, Long John Silver n'aura pas le choix. Il devra dévoiler 7 indices publics, donc communs à tous les pirates, mais aussi quelques indices distribués individuellement. Attention parce que 2 des indices communs ne sont pas forcément vrais. Les pirates pourront utiliser une action spécifique pour vérifier si on leur a menti ou pas. Les indices pourront contenir des points cardinaux, des angles, des cercles, des orientations diverses. Ils pourront faire référence à la géographie de l'île, aux différents points d'intérêt ou à la position des pirates eux-mêmes d'ailleurs. Le premier pirate qui fera l'action de creuser à l'endroit où il y a le trésor gagnera la partie. Mais attention, lors du 17e jour, Long John Silver s'échappera de la tour et courra vers le trésor. S'il arrive à le récupérer, alors c'est lui seul qui gagnera la partie. Treasure Island est un peu une suite spirituelle de Captain Sonar, un jeu de sous-marin exceptionnel sorti il y a 2 ans. C'est le même éditeur, Matago, c'est la même taille de boîte. Et puis ce concept de feutre qui permet d'interpréter librement, de noter des informations, de passer des informations aux autres, etc. C'est le même dans ces 2 jeux. J'ai fait plusieurs parties, j'ai vraiment passé de bons moments, c'est innovant, c'est différent, vraiment je leur tire mon chapeau. Le jeu Treasure Island, l'éditeur Matago, l'auteur Marc Paquien, l'illustrateur le fameux Vincent Dutray, de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Essayez-le. L'asymétrie, le bluff, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais quand ça accroche, ça vaut vraiment le coup. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui vous permettront de vous faire inviter chez qui vous voulez. Ça marche vraiment. Bye bye.
Bye bye Jérémy, et à la semaine prochaine, bien sûr. Eh bien là, on repart, hein. On est aussi dans du remake. Non, là c'est du portage en fait. On
tu
est
veux
pas
parler
dans
de Catherine.
Oui, on, voilà. Oui. Là, on retourne en 2011, mais avec Catherine qui sort sur PC. Snap out of it. Sounds to me like she finally wants you to tie the knot. Alors on retrouve cette aventure, ce faux jeu d'aventure, enfin
ce faux jeu érotique d'aventure,
ce faux truc, en fait cette arnaque qu'est Catherine.
Vous allez vous faire des potes vous.
C'était assumé le truc c'est qui trompe finalement. Alors, Catherine,
j'ai jamais joué, mais je pense.
Catherine,
que...
il trompe jusqu'au bout. Et parce que derrière cette apparence comme ça de jeu érotique, d'aventure, de dating game,
ouais.
En fait, c'est un jeu de puzzle à
oui.
la con.
Elle est super hardcore en fait. Hein. Ouais. Plus ça va, plus c'est difficile. Bah alors pour le moment, voilà, j'ai pas énormément avancé, mais en tout cas côté histoire, je suis un petit peu sceptique. J'attends de voir comment ça va se dérouler parce que tout le monde me dit oh là là mais Catherine c'est quelque chose d'incroyable, tu vas voir. Mais pour le moment, je vois juste un garçon qui a du mal à prendre des décisions et qui fait un petit peu ouin. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux pas me marier? Bah te marie pas. Surtout que ça, au final, je trouve que sa copine, elle a pas l'air forcément plus emballée que ça en fait. On essaye de faire passer un peu la vilaine copine qui veut absolument se marier, mais au final, elle n'a pas l'air si enthousiaste que ça. C'est plutôt genre, bon, bah, faudrait peut-être le faire. Hein, je sais pas, tout le monde le fait. Bon, bref, côté histoire, j'attends d'être surprise. Je pense que je serai surprise, je l'espère. Mais après, côté puzzle game, je trouve ça de plus en plus sympa et de plus en plus addictif, en fait. Mais par contre, c'est un portage de feignant.
Ah oui, oui, oui.
Oh la vache. Alors,
en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a Catherine Fullbody qui est là pour le coup, une sorte de remake.
Avec des ajouts.
Avec des ajouts, avec une vraie mise à jour graphique, avec des choses qui sortent dans les mois qui viennent, là, en avril, mai ou quelque chose dans le genre.
Au Japon, c'est 14 février chez nous, je crois pas que ce soit encore daté.
Ouais, mais et sur PS4, pas sur PC.
Vita PS4.
Du coup, on est là, mais pourquoi vous sortez quelques semaines avant une version PC classique mal foutue? Parce que c'est très étrange.
Oui, des fois, tu tombes à 30 FPS. Enfin, tu sais même pas pourquoi. Et puis même, les cinématiques, elles ont vachement vieilli. Enfin, tu vois qu'ils ont pas... ils ont un problème de conversion. Enfin, je pense qu'il y a un truc qui aurait mérité d'être un peu plus travaillé.
C'est le moteur de Persona 5 qui avait déjà été prévu à la base pour PS3. Donc, c'était...
Enfin, tu sens que t'es, voilà, qu'ils ont pas fait d'efforts, quoi. Mais bon, c'est l'année où je vais faire Catherine. Donc, voilà. C'est pas grave.
Mais
c'est pas grave. Il faut prendre en compte que c'est sorti en 2012.
Quand on découvre, y a quand même... C'est un animé, quand même, qui est incroyablement beau pour un jeu vidéo en termes d'animation, en termes de chara-design, en termes de tout.
Et ça tient d'influence et de référence.
Ce qu'il y a, c'est ce truc très étrange d'être sur un pur puzzle game qui est bien pensé, avec des bons puzzles finalement, parce que c'est un truc d'ascension.
Mais qui
te punit quand même. Il faut monter, il faut tirer des blocs pour trouver des passages, pour monter tout en haut, sortir de ses cauchemars. C'est très dur, c'est très gratifiant aussi.
Même au Japon, les joueurs se sont plaints parce que c'était trop dur. Au Japon,
Ils
se plaignent jamais que c'est trop dur, les Japonais.
Et donc, il y a ce truc, cette sorte de truc qu'on ne comprend pas. Hein. On galère sur trois étages pour monter, sortir d'un cauchemar.
Et tu ne peux pas faire au pif, il faut vraiment que tu réfléchisses parce que sinon, voilà.
Il faut,
faut développer une tactique.
Et apprendre.
Oui, parce qu'entre chaque puzzle, tu peux discuter aussi avec d'autres... moutons. Et puis tu peux essayer de voir un peu comment tu peux avoir quelques petites astuces.
Très bizarre cette A priori, le seul conseil, si vous y avez déjà joué, donc vous n'y rejouerez pas. Et si vous n'y avez pas joué, attendre, si vous avez une PS4, en tout cas, attendre peut-être la version Catherine Full Body, parce que voilà.
Même, avec, j'y crois pas trop, mais voire même peut-être un moyen d'avoir le DLC, d'avoir des patchs, tout ça. C'est vrai que Sega a une politique un peu plus proactive maintenant sur PC, donc peut-être ça sera un petit peu amélioré dans les jours qui viennent. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas une bonne idée, c'est clair. Il vaut mieux soit le...
Même si tu te dis, ok, c'est sorti en 2012, machin, non en fait.
Moi par exemple, j'attendais un peu, cool, il la sort sur PC et tout, puis j'ai vu les remarques sur le portage, du coup non, je vais attendre.
Dommage. Tu as raison.
Bonne idée. C'est le moment, on change totalement d'univers. Là, on va glisser sur des rampes de couleurs dans Future Grind. But at first, just try to survive. Then, get creative.
Hi, I'm Praxis Soma, CEO of Subverse Corp. You're exactly what we've been looking for.
Alors là aussi,
oui.
Étrangement, il y a un scénario.
Oui, c'est bizarre.
C'est le truc le plus étrange de ce jeu. Tu vas nous en parler. Ça se rapproche finalement de Catherine. Il y a ce truc, il y a un jeu avec un principe de jeu, et à côté, il y a un scénario dont tu te demandes ce qu'il fout là.
Oui, bon, il mange pas de pain non plus, le scénario, il prend pas trop de place.
Non, c'est vrai.
Bon, Future Grind, on est sur un jeu, c'est un mélange entre un jeu de course futuriste, un jeu à la Trax, Trax, le jeu où on est une motocyclette, on doit aller dans Trials, merci beaucoup, désolé, je l'avais sur le bout de la langue. Donc on est un mélange entre Trials, un jeu de course futuriste, un jeu de plateforme, évidemment. Voilà, donc on contrôle une espèce de moto qui aura une ou plusieurs roues de couleur. Vos roues doivent absolument toucher les rails de la même couleur, sinon vous explosez. Donc, sachant que vous pouvez faire tourner votre moto.
C'est un jeu en vue...
Vue de côté, ouais.
Vue de côté, hein. C'est un jeu...
Absolument.
Le parcours est à l'horizontale et il y a des plateformes plus ou moins.
Voilà. Ouais. Et sachant que vous ne pouvez pas gérer votre vitesse, vous avancez inexorablement et vous pouvez uniquement agir sur les sauts, sachant que vous avez en général un saut puis un saut dans les airs. Vous avez même deux sauts dans les airs et la rotation en fait des roues autour de vous. Donc il faut faire en sorte
un peu façon ragdoll en termes de dynamique pour choisir sa rotation.
Ça dépend des motos.
Ouais, mais
il y a une moto, ça ne bouge pas du tout. C'est une des plus faciles. Elle a trois sauts et ça bouge pas du tout. Par contre, du coup, les terrains sont beaucoup plus difficiles. Il y a une espèce d'inertie en fait. Les roues continuent un peu d'avancer même quand on a lâché le bouton de sig. Donc il faut aussi gérer cette notion-là, surtout quand on doit faufiler des roues entre deux rails d'une couleur qui ne correspond pas et faire en sorte que ça touche pas. Des fois, il faut faire passer un petit peu le fil dans le chat de l'aiguille, c'est assez intéressant. Donc, on est sur un jeu qui vous propose des circuits, puis des circuits, puis des circuits, avec différents level design. En fait, l'histoire, c'est vous êtes une espèce de sportif, et puis en fait, on vous envoie des messages. Ah, bonjour, et ben voilà, nous sommes votre sponsor, on aimerait que vous essayiez ce circuit, voilà, on compte beaucoup sur vous, hein. Bon courage. Donc, toi, tu fais ton circuit, et ensuite, on te demande de refaire deux fois le circuit avec deux missions en général. Donc, par exemple, ça va être de faire une figure, de faire un 360 ou un 360 720. Backflip, ou alors de se laisser accrocher un rail, parce qu'en fait, on peut se laisser accrocher un rail, puisqu'on a deux roues. Donc, il y a quatre façons, en fait, de toucher le rail. Il y a soit par en dessus, soit par en dessous, soit par le dessous de la roue du dessus, soit par le dessous de la roue du, soit par le dessus de la roue du dessous. Je sais pas si
vous voyez
ce que
pas
je veux
du
dire.
Tout de quoi on parle, c'est mais quand on y a joué, on voit bien de quoi il parle.
Voilà.
Je vous promets.
Mais c'est différentes figures, quoi, en fait, que vous pouvez faire. Et donc, on va vous demander de remplir ces missions. Une fois que vous avez rempli ces missions, ça débloque d'autres courses avec d'autres sponsors qui vont dire waouh, je vous ai vu jouer l'autre jour, pas mal du tout. On aimerait travailler ensemble. Voilà, on a un véhicule, essayez-le. Et vous essayez, vous enchaînez. Puis au bout d'un moment, et c'est là où on arrive sur l'histoire chelou, ton premier sponsor qui t'envoie un message avec son compte perso. Ouais. Je devrais pas te le dire, mais méfie-toi de ce mec. Et genre, non, mais ouais, ça fait des trucs comme ça. Donc tu commences à continuer et tu vois, ah mince, on met une histoire dans ce jeu de figures, de plateformes, machin, qui mange pas de pain, qui est pas mal. Hein, c'est pas incroyable, mais c'est franchement du solide, hein, ce jeu-là. On s'amuse bien, on marque des points, on avance, on prend son pied. Puis non, on essaie d'insérer une histoire là-dedans qui est pas mauvaise en soi, qui est plutôt bien racontée, qui est racontée de manière originale, puisque tout est intégré dans les menus de sélection, de choix et tout. Et l'histoire vient s'insérer dans le choix en fait des circuits, c'est très bizarre.
Ce qui est agréable dans Future Grind, c'est que les courses sont courtes,
ouais.
Qu'on a la possibilité sans trop, en fait c'est du die and retry pur, mais l'apprentissage, les courses étant courtes, on arrive à intégrer la logique d'un parcours en une dizaine de morts, on va dire qu'on a à peu près, et après ça devient une question de rythmique, de timing et du coup c'est assez gratifiant,
en fait,
agréable.
Il y a une première phase où on va essayer de comprendre quel va être l'itinéraire qu'on va devoir faire pour réussir la mission qu'on nous demande, par exemple ne pas toucher de rail blanc ou de voilà, ou alors de par où je vais passer pour pouvoir le plus facilement faire mon 360 qui est enfin mon 1080 qui est insupportable à faire dans ce contexte là et en fait au bout d'un moment ça finit par rentrer, alors on va beaucoup mourir, on peut recommencer très vite aussi en cas de problème. Donc en fait c'est des sessions de jeu très courtes, c'est parfait pour les transports en commun. L'histoire est ce qu'elle est, il y a des histoires de glitch et machin, le jeu commence à partir en couille au bout d'un moment, il est à deux doigts de se fermer tout seul, voilà, vous voyez un peu le genre. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt solide. C'est fait par un petit studio québécois, Milkbag Games. Ça coûte 20€. Bon,
c'est
un peu cher pour ce que c'est. Mais il y a quand même plus de 30 courses, 5 véhicules. C'est du solide. C'est solide. C'est pas le jeu du siècle, c'est solide. C'est sur PS4, PC et Switch. Et voilà, moi j'ai passé un bon moment.
Alors très rapidement, parce que Patrick est en train de trépigner, il n'aura pas assez de temps pour parler de The Forest. Alors il y a un button Switch.
Tu vas vraiment me donner 30 secondes pour parler du meilleur jeu de 2015 avec Undertale.
Mais tu en as déjà parlé dans Science on Joue, je te rappelle.
C'est vrai. Donwell, donc vous êtes un petit personnage et faut aller dans un puits. Et donc on descend dans un puits. Et en fait, notre bouton de saut, c'est aussi notre bouton de flingue. Et donc en fait, quand on saute, on tire avec ses pieds. Parce qu'on a des flingues aux pieds, un peu comme Bayonetta. Mais là, en fait, ça te permet de rester un petit peu en l'air. Et le but du jeu, c'est d'aller tout en bas. Et en fait, pourquoi c'est un excellent jeu qui a été donc créé par Ojiro Fumoto, qui est un game designer génie, il a été embauché par Nintendo, puis il est parti de chez Nintendo parce qu'il est trouvé nul. Voilà, c'est qui Ojiro Fumoto. Et donc, pourquoi ce jeu est formidable ? Parce que tout le game design est pensé pour ce système de tu descends et tu dois faire des combos. Combos comment ? Tu as des ennemis blancs, tu as des ennemis rouges. Les ennemis rouges, tu leur tires dessus. Les ennemis blancs, tu leur sautes dessus. Puis ensuite, tu dois maintenir un combo. Tu dois jamais toucher le sol. Tu dois toujours sauter sur des ennemis ou leur tirer sur des ennemis ou rebondir. Tu dois jamais toucher le sol. Au bout d'un moment, tu rentres dans une espèce de zone. C'est un roguelite, un petit peu comme un Spelunky dans l'idée. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fin de niveau, on va vous proposer des upgrades. Il y a un shop. Il y a des petites salles sur les côtés qui vous permet, et là c'est super malin, de récupérer d'autres armes, mais des fois tu dis mais enfin Erwan, moi je veux garder mon Corentin, moi je voulais garder mon arme à la con, mais oui mais l'arme elle te rend un point de vie, alors tu changes d'arme et tu gagnes un point de vie, bon ok je change d'arme, voilà, mais ça c'est super malin comme façon de game designer. T'as déjà trop points de vie, c'est pas grave. À chaque fois que tu gagnes un point de vie supplémentaire, et ben ça te remplit une jauge qui te permet d'augmenter ta jauge maximale. Tout est pensé dans ce jeu. C'est vraiment du pur génie de game design. C'est tout compact, c'est du niveau de Spelunky, c'est un jeu complet, parfait. Je recommande à n'importe qui. Ça coûte 3 balles, Erwan.
Ah oui, là, c'est l'argument qui tue. Là.
Et c'est sur Switch. Et alors, sur Switch, j'ai redécouvert une façon de consommer Dan Noël parce que dans les transports, c'est formidable. J'ai réenvie d'y jouer parce que j'avais torché Dan Noël au bout d'un moment. J'ai jamais fini en hard, mais là, je pense que je vais me le faire sur la ligne 8. Attends-moi, je vais descendre tout en bas de ce puits. Et même la fin.
Décrocher son micro, s'il vous plaît, merci.
Même là.
Intervenez.
Faites quelque chose.
Il est pas bien, monsieur, là.
Je n'empêcherai pas de parler.
Il va nous faire une syncope.
Non, voilà, Dan Noël, c'est vraiment excellent. Je recommande à quiconque
de
jouer.
Compris, hein, ouais. On avait compris.
C'est pas cher et c'est sur Switch.
Merci, Corentin. Et là, on va partir. Ça commence mal. Hein. Ça commence mal. Ça commence avec un crash d'avion.
Très, très
on
mal.
Arrive
Mais
dans
des
un
belles
endroit.
Choses sont à venir après. Ouais. Ou peut-être pas. En fait.
Ou peut-être pas. C'est sorti. Enfin, c'était en early access depuis très longtemps. Ça s'est déjà vendu.
3 ans, je crois.
Ça s'est vendu à 5,3 millions d'exemplaires déjà. Ouais. Et c'est The Forest qui a débarqué
PS4,
fin de l'année dernière sur PS4. Voilà. C'est un peu. En fait, c'est ça, The Forest.
C'est la
musique tranquille. T'es bien. Tu construis ta cabane. Ouais, tu fais ton feu. Tu coupes des arbres. Et d'un coup,
ouais, non, mais c'est le vrai tri. Alors moi, cette semaine, j'étais entre ça et Resident 2, donc je me suis fait une petite semaine, sympa, comme
sereine.
Ça, ambiance. Sereine, je sais pas si c'est le terme. Alors, on commence. Donc, on est sur un jeu de survie en vue subjective, déjà pour poser un petit peu la. L'ambiance, on commence le jeu en vue subjective, en avion, avec notre fils à côté de nous, un monsieur serein. Accident d'avion, l'avion se casse la figure, on se retrouve sur une île mystérieuse. La bonne nouvelle, c'est qu'on est vivant et notre fils aussi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a à peine le temps de se réveiller, de le voir embarqué par un type chelou, qui a une drôle d'apparence.
C'est
un mec bizarre, quoi. Genre cannibale, pas bien intentionné.
C'est encore Mister X, c'est encore lui.
Ah non, pire.
Il y a
un truc comme ça, mais.
Il y a un côté
mystérieux. T'as pas les codes Capcom, t'es pas dans l'imagerie résidente, t'es perdu, t'es dans l'inconnu et tu flippes. Tu te réveilles. Alors comme tu dis, Erwan, donc on est en vue subjective, on se dit bon, il faut que je survive. Et là, le jeu nous laisse. On est vraiment sur du gameplay émergent. C'est-à-dire, débrouille-toi. Tu te débrouilles. On a quelques objets, on a un guide de survie, Dieu merci, sur soi, donc il nous aide. On apprend très vite à. Alors, le début du jeu, il est plutôt chatoyant parce qu'on est sur une île jolie, il y a un ciel bleu, il y a des oiseaux, plein d'animaux qui tournent autour de nous. Donc, on craft, c'est-à-dire qu'on récupère du bois, on construit, on se fait un feu, on essaie de se nourrir.
C'est vachement bien foutu.
C'est vraiment joli. Alors, ce qui est dingue, hein, quand on lance le jeu, il a été fait par 4 mecs, et quand tu vois le jeu à l'écran, tu dis mais c'est pas croyable, il envoie. Visuellement, il est en monde ouvert, il est vraiment impressionnant pour quand tu connais la team, tu te dis ouais, les mecs ils vont quoi, c'est End Night Games des Canadiens. Et donc voilà, on commence la partie en se disant mon fils, il va falloir que je le retrouve quand même, c'est dans les objectifs, on a un vague
son fils.
Il faut le retrouver parce qu'il s'est fait enlever, et puis c'est pas qu'on oublie, mais on survit à l'instant, c'est-à-dire qu'on se dit il faut se nourrir, on récupère du bois, on mange machin, on explore un petit peu son endroit. Un peu comme résidente, on se crée une petite routine.
Et puis
il y a les premiers doutes visuels. C'est-à-dire que dans ton champ de vision, tu vois un truc qui bouge et tu te dis mais c'est quoi ça, j'ai vu un truc et t'as des cris d'un seul coup. Et moi, j'ai déjà flippé devant les jeux vidéo, parce que j'aime les jeux d'horreur. Là, franchement, j'ai eu des sensations sur The Forest quand tu t'y attends pas. Alors, je veux pas trop spoiler parce que c'est vraiment un jeu, c'est une expérience. Et comme tout jeu émergent, c'est toi qui te fais ton expérience, parce qu'on n'a pas des objectifs sur une carte. Non, c'est à toi de te créer ton histoire aussi. En gros, ce que tu comprends très vite, c'est que t'es pas tout seul sur l'île. Il y a des personnages très chelous qui te tournent autour. Et là, c'est là où le jeu fait très très fort. C'est-à-dire que tu les aperçois, t'as des cris, mais des cris très inquiétants de personnes qui ne sont pas normales. Enfin, t'as des cris vraiment inquiétants qui te tournent autour. Et là, je trouve que l'IA joue très très bien là-dessus au début. C'est-à-dire que les premières rencontres sont presque sympathiques. C'est-à-dire que tu vois ces personnages un peu indescriptibles, hein, genre homme des cavernes, un peu chelou, qui marche à quatre pattes en courant, qui viennent te voir. Une sorte de communication, ils repartent, ils ont peur. Et puis, t'as la première nuit qui arrive. Et là, il faut passer la première nuit. Et là, c'est une expérience, c'est une expérience de flip pas possible.
Juste pour ajouter, parce qu'on va pas effectivement ni spoiler, ni, n'y s'étendre beaucoup, mais c'est en termes d'interface, je trouve que c'est excellemment bien pensé, parce que j'ai toujours eu du mal avec ces interfaces de survie,
menus, souvent,
survie, craft en monde ouvert.
Là, il faut gérer sa faim, sa soif, sa fièvre, sa...
Il y a ça, mais c'est transparent.
C'est super bien
intégré. C'est organique. Ouais. C'est organique, c'est-à-dire que ton inventaire, bah, c'est un tapis que tu déplies visuellement, c'est-à-dire que tu vas piocher comme ça à droite les objets, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Bah, du coup, tu as un guide de survie qui te dit comment construire tes choses. Tout se fait, il n'y a pas de menu en fait. Il n'y a pas de menu avec des sous-menus, il n'y a pas de tout ça.
Et à terme, en fait, le guide de survie, et le mode de construction, c'est un truc tellement bien fait que tu peux commencer à faire des cabanes dans les arbres et des ponts entre les arbres. Et tu le fais simplement.
Tu fais ton accrobranche et
tout. Exactement, tu fais ton parcours.
Ah, mais ça, tout de suite, hein, ça faut prendre.
Tu me l'as vendu
avec la tyrolienne. Avec la tyrolienne, le truc de taré.
Ouais, enfin, avant ça, tu commences par te faire un pauvre feu pour manger ce que tu peux, parce qu'il faut quand même apprendre à tuer des bêtes, à te nourrir.
Mais je trouve que c'est
pour dire que. Mais t'arrives à évoluer vite, l'interface.
Bah, ça dépend de comment tu abordes le truc. En fait, déjà, il faut survivre une première nuit. C'est déjà. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, pour faire simple, donc tu es entouré par ces monstres. Au début, tu sais pas trop à quoi t'as affaire, mais tu comprends que ça va pas bien se passer. Et la nuit, ils sont agressifs, c'est-à-dire qu'ils viennent te voir de plus en plus, ils s'approchent. Et là, en fait, t'es vraiment sur un mix entre The Descent et le Blair Witch Project, parce que t'es en vue subjective et t'as des sensations la nuit, t'as des bruits, des rires complètement fous d'un seul coup. Et c'est vraiment c'est terrifiant. Ouais. Moi, j'avoue, franchement, les premières parties. Après, tu sais à quoi t'as affaire, donc tu te prépares.
Et puis,
t'as ton feu, tu commences à te faire ta base. Vraiment, en termes d'ambiance, c'est très très impressionnant. C'est vraiment pas pour les âmes sensibles. Hein. Moi, je le recommande pas. C'est vraiment un trip très très impressionnant, mais en plus c'est génial d'explorer cet endroit. Il est sur Steam.
Alors c'était sur PC depuis 2014, hein, c'était en Early Access.
Il a beaucoup évolué d'après ce que j'ai vu.
Il est sorti le 6 novembre sur PS4.
PS4, une version qui est très propre. Il y a quelques ralentissements, mais franchement, on fait pas attention à ça. Le jeu est tellement prenant. Il y a toute une communauté. J'ai vu de YouTubers qu'on peut jouer en multi aussi. Tu peux jouer à 4 sur PS4 et je crois 8 sur PC, il me semble. Donc j'en peux plus
sur PS8.
Et donc tu peux vraiment avoir une sensation comme ça de liberté, enfin d'équipe et de d'affronter ce terrain quand même hostile. Et la force, c'est que pour un jeu comme ça de crafting et de survie, tu as ce fil rouge scénaristique de retrouver ton fils. Truc qui est pas toujours là dans ces jeux-là, c'est-à-dire qu'en général t'as une sorte de voilà de monde,
voilà,
bah débrouille-toi.
C'est pas traîner ton fils quoi.
Là il faut t'es motivé pour découvrir ce qui se passe parce que t'as quand même une histoire autour de ces personnages visiblement d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent.
Écoute Patrick, on va faire un accord. Je te laisse la parole, mais maintenant c'est et quand vous ne jouez pas vous faites quoi, hein, d'accord.
Alors il y a peut-être une transition à faire parce que je vais faire simple.
C'est juste je reprends le truc, c'est voilà.
Non, une très bonne surprise, je le recommande, mais vraiment le corps accroché, puis bah c'est génial de découvrir des endroits. Il y a un bateau échoué à un moment. Enfin, c'est... Très bonne surprise. Voilà.
Merci Patrick. Donc c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Très 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 vite, Patrick.
C'est sur Netflix à mon tour. Hein, chacun son tour. Ça s'appelle Par le pouvoir du crâne ancestral.
Tu vas
c'est
me prendre le mien.
Justement, j'y ai pensé, mais je me suis dit non. Je l'ai regardé hier soir en plus. Mais non, je vais parler d'autre chose, une BD.
Je pense que le cœur de cible a compris ce que c'était. Par le pouvoir du crâne ancestral, c'est un superbe documentaire de plus d'une heure sur les maîtres de l'univers, hein, sur la licence, les personnages. C'est fait avec amour. Il y a des gros plans sur les jouets, sur le plastique, sur comment ça a été fait. Des interviews des amis Dolph Lundgren et Frank Langella qui ont bossé sur le film de 87. C'est très bien documenté, beaucoup d'interviews, on apprend pas mal de choses, même quand on connaît bien l'histoire de ce jouet mythique et emblématique des années 80, je recommande, c'est sur Netflix. Là.
Camille.
Oui, alors en ce début d'année, j'ai eu le plaisir de découvrir un joli bijou qui m'a fait voyager et rêver, c'est la BD Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori, sortie en janvier chez Sarbacane. Donc on suit les aventures de Stis, un satyre qui est la dernière divinité présente dans notre monde, et du coup il s'ennuie, il boit beaucoup de vin, et du coup il décide de partir à la recherche de son ami Pan, et alors du coup il s'ensuit plusieurs péripéties, on rencontre plusieurs personnages, on s'attache beaucoup beaucoup, et du coup c'est vraiment un voyage pour retrouver son ami, retrouver ce qui s'est passé avec les dieux, pourquoi ils ont disparu, mais aussi Hostis va se découvrir lui-même. Alors voilà, c'est très bien écrit, l'histoire est surprenante, et en plus c'est vraiment très très beau, c'est très coloré, le trait rappelle parfois Gustave Klimt ou même Gauguin ou Van Gogh. Bref, c'est un régal pour les yeux et le cœur, et je vous encourage. Le Dieu Vagabond.
Merci, Corentin.
YouTube m'a piégé dans une boucle temporelle, je n'arrive plus à m'en sortir. Carambolage en boucle tout le temps, tous les carambolages qu'il y a sur YouTube, ils sont très nombreux. Carambolage, vous connaissez peut-être, c'est l'émission d'Arte qui est diffusée le dimanche à 20h35, avant le film, ou avant le documentaire, avant le thème peut-être, je ne sais pas. Et ça parle de quoi, carambolage? Ça parle de manière animée, toujours, hein, sur des petites animations sympathiques de différences culturelles entre la France et l'Allemagne. Et c'est toujours très, très, très intéressant. Donc je suis devenu expert, hein, sur la tradition de l'apéro en France, la National 7, les supérettes berlinoises ouvertes 24h sur 24, le toc œuf allemand qui permet d'ouvrir son œuf à la coque de manière extrêmement propre, bien sûr, sur les différences de mensuration entre la France et l'Allemagne, mais aussi sur les différences des contrôleurs dans le métro à Berlin et à Paris. C'est vraiment très intéressant. Et alors, chose étonnante, en venant ce matin à Science on Joue, il y avait la dame de carambolage qui était en interview sur France Info.
Non.
Pourquoi? Parce que dimanche 10 février, bah, c'est la 500e de carambolage,
wow,
figurez-vous. Et donc, n'hésitez pas à regarder. Alors, tu vois, Arouane, tu te la joues avec tes 400, là, je pense que tu as des petites leçons à prendre de la part d'Arte. Non, mais c'est vraiment très chouette. On apprend plein de trucs. C'est rigolo. Donc,
mais je comprends le côté addictif aussi en boucle comme ça.
Mais c'est court.
Je tombais dessus. J'étais là, oh, c'est déjà fini, mince.
Oui, un petit deuxième, troisième, quatre. Il est 4 heures.
Du coup, là, si c'est laissé comme ça. Ouais.
Donc, n'hésitez pas à jeter un œil.
Bon, le must watch de Netflix de ces dernières semaines, 7 dernières semaines, je crois. D'ailleurs, c'est très, très récent. C'est évidemment Poupée Russe, qui est juste incroyable.
Je pensais que tu allais parler du documentaire du Fire Festival.
Non,
mais Poupée Russe, je voulais en
parler. Poupée Russe, Russian Dolls, c'est un jour sans fin revisité, c'est le principe d'un jour sans fin, c'est brillant, ça tient la route, c'est 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus, 10 épisodes je crois, c'est des épisodes d'une demi-heure, une New-Yorkaise qui, voilà, comme dans un jour sans fin, elle meurt, elle revient dans une salle de bain le soir de son anniversaire, ça tient la route, c'est cohérent, c'est bien, c'est bien jusqu'au bout, c'est drôle, c'est émouvant, c'est tout ce que tu veux, c'est vraiment très très bien et je ne peux que le conseiller.
C'est surprenant au final, hein, parce que les derniers épisodes, j'ai fait « Ah, tiens !»
Mais voilà.
Ouais,
et moi, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. C'est super.
Cherche un truc d'une demi-heure à regarder, je vais voilà, regarder un peu.
À la réalisation, c'était Quentin Bresson. Merci, Quentin.
Qui m'a coupé le micro.
Bah, c'était trop bien, c'était trop bien. Refais-le quand tu veux. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.